אמר רב יהושע בן לוי, דבר אחר, מהו ויפגע? אותו שוז. Qu'est-ce que ça veut dire vaïvga? Vaïvga, ça veut dire toucher. Alors on traduit tsali. Ça veut dire il a prié. Bonsoir. Il a prié. Vaïvga bamakom. Donc il a prié bamakom. Le lieu, au lieu. Tsali bebet amigdash. Il a prié au Beth Amikdash. Yaakov Avinu a prié au Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a prié au Beth Amikdash? Je ne sais pas. La plupart d'entre vous savent que le Beth Amikdash, c'est David Ameler qui l'a construit. Enfin, c'est Shlomo Ameler sur le plan de David. Et donc, c'est un peu difficile de penser qu'Yaakov Avinu a prié au Beth Amikdash. Donc ça veut dire ici, par Beth Amikdash, on n'entend pas un Beth Amikdash construit. Il a prié à l'endroit du Beth Amikdash, à l'endroit où allait être construit le Beth Amikdash. Donc on a un peu l'impression ici que pour le Midrash, l'endroit où le Beth Amikdash sera construit s'appelle déjà Beth Amikdash, c'est-à-dire le lieu en lui-même. La bâtisse, si vous voulez, elle obéit à des règles, elle va entraîner des comportements, des circulations, etc. Mais la Gdusha, elle est là, même avant que le Beth Amikdash soit construit, d'après ce Midrash. Amar Rav Yehoshua ben Levi, Avot HaRishonim Hitkinu, Shalosh Tfilot. Rav Yehoshua ben Levi a dit, les avot, ici ils sont appelés avot arishonim, les premiers patriarches. Itkinu shalosh tfilot. Avraham tiken tfilat shacharit. Ensuite Yitzhak, celle de Mincha. Et Yaakov, celle du soir. On va voir un peu dans le détail.
De VRT s'appuie visiblement sur une version un tout petit peu différente, donc pour suivre, il vaut mieux avoir les deux. Excusez-moi.
Bien, alors, pourquoi est-ce qu'il s'appelle ici Avot HaRishonim? On trouve cette expression aussi chez Rashi, comme s'il y avait d'autres Avot que les Avot HaRishonim. Alors, je crois que... Ici, ce n'est pas évident pourquoi ils sont appelés Avot HaRishonim, mais quand Rashi en parle, c'est au début dans la parasha de Shemot. Là-bas, c'est assez clair que les Avot du clan Israël qui sort d'Égypte, c'est la génération d'Amram, la génération des parents de Moshe Rabbeinu. Et c'est de ce fait, on appelle Avot HaRishonim ceux qui sont les patriarches. Donc, c'est les premiers Avot au sens de bien avant les avot concrets. Ici, pourquoi est-ce qu'ils disent ici avot HaRishonim, ça n'est pas tout à fait clair. Peut-être que c'est dans un contexte, ça s'inscrit dans un autre contexte, je ne sais pas. Ici, on ne voit pas pourquoi on devrait dire Avot Arishonim, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Depuis très longtemps, les Avot, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, en fait, il y a deux grandes théories. Il y a une théorie comme quoi ce sont les Avot qui ont, chacun d'entre eux a instauré une tfila. Et puis il y a une autre théorie qui dit que les Avot, ce qu'ils ont instauré éventuellement, ou les Chachamim directement, sans les Avot, ont instauré les tfilot en lieu et place du Korban Tamid. C'est-à-dire qu'à la place du Korban Tamid du matin, ils ont instauré Shacharit. À la place du Korban Tamid de l'après-midi, ils ont instauré Arvit, Mincha, pardon. Et la prière de Arvit ou de prière du soir, donc, Marie, Arvit, celle-là, elle est facultative. Elle a un autre, après ça, elle a un autre statut. Elle n'a pas été instaurée par rapport au Tmidim, mais ça correspond malgré tout à quelque chose qui se passait au Beth Amikdash. C'est pendant la nuit, on faisait brûler les membres, les parties, des morceaux du Korban Tamid, par exemple, qu'on avait approché juste avant la fermeture du Beth Amikdash, et ensuite, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, mais ça brûlait Kola Laila, il brûlait toute la nuit. Et donc, on dit que c'est aussi une opération, c'était important que ça brûle. Cette espèce de consommation de l'Holocauste, d'un korban qui doit être entièrement consumé, c'est un maaseh mitzvah, c'est un travail de... Ça s'inscrit dans la mitzvah, c'est pas qu'on a fait on a fini, mais maintenant techniquement il faut que ça brûle, quoi. Il y a une importance, puisqu'après il y a des dinim, qu'est-ce qu'on fait si un morceau a sauté, est tombé en dehors du misbéar, est-ce qu'on le remet, qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas complètement consumé, bien s'il est déjà suffisamment noirci, mais donc il y a toutes sortes de dinim justement à ce sujet-là. Donc ici on rapporte Rabbi Yoshua ben Levi que les Avot itkinu shalosh tfilot, eux ils ont instauré trois prières. Donc là on entend itkinu, c'est une lashon takana, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire itkinu? Ils ont fait une takana. Avraham il a fait une takana pour qui? Ouais, il a fait une takana quoi, pour les gens qui étaient autour de lui, pour tous les gens qui se sont convertis et pour son fils. Takana, a priori, ça se fait quand on a un tzibour, quand il y a une collectivité. Il a instauré ça pour quelle collectivité? Il n'y a pas encore de... Et puis ces trois prières, c'est quoi? Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils sont ici Bnei Israël ou ils sont Bnei Noach? Depuis quand les Bnei Noach, ils ont trois prières par jour? Bon, ils sont des Bnei Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov, à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont instauré? Pour qui ils ont instauré? Est-ce qu'ils ont instauré pour le futur? C'est-à-dire, c'est étrange, vous comprenez l'affaire? Devant eux, ce qu'ils ont, c'est les gens qui sont des Bnei Noach. Les gens ne sont pas devenus des Bnei Israël à ce moment-là. Et par conséquent, pour qui on a fait la takana? Oui, mais est-ce qu'on fait pour soi une takana? Ils se sont fait une discipline, pourquoi une takana? Peut-être, c'est jouable de dire ça, mais ça, en fait, dans la mesure où on va justement regarder cette takana-là et par rapport à ce qui a été fait, par la suite, par rapport au tamid, au korban tamid qu'on ne pouvait plus approcher, visiblement ça c'est une takana d'après la destruction du Beth Amikdash, après la destruction du Beth Amikdash. Alors on a décidé de remplacer le korban tamid par la prière, par les différentes prières au même moment. Et donc là on comprend la takana, c'est le klal Israël, on a décidé pour tout le klal Israël quelque chose, mais ici qu'est-ce que c'est que cette takana des avot? Pour qui font une takana?
Dans notre peuple, nos avot engagent les générations futures. Au moment de la table. par Sinaï, c'est ce qu'ils disent. C'est leur réponse, ils disent c'est pas sur nous, ça sera sur nos enfants.
Oui, c'est d'accord. Mais ils s'engagent à faire ce qu'Hachem leur demande. Mais faire une takana, c'est-à-dire c'est prendre un engagement, c'est pas la même chose. Dire oui à quelque chose et dire mon oui, en fait, va inclure, c'est même pas seulement eux, ils disent, on donne nos enfants en garantie, ou bien, ou alors, quand Moshe Rabbeinu dit, dans Sefer Dvarim, que Hachem, il fait un brit avec ceux qui sont là et ceux qui sont pas là. Bon, d'accord, mais ça, c'est Alpi Hachem, tout ça. Ici, une takana des avot, c'est eux, à titre personnel, ils ont décidé qu'il fallait faire ça. Shalosh Tfilot, donc. Et puis on nous dit, Avraham tiken tfilat shacharit. Avraham a instauré la prière du matin. Shenemar vayashkem Avraham baboker, el amakom asher amat sham, ve'en amida el atfila. Shenemar vayamot pinchas vayfalel. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit que Il a instauré Shacharit. D'où est-ce qu'on le sait? C'est marqué Vayashkem Avraham Baboker. Avraham s'est levé de bon matin. Il s'est levé le matin. Quand est-ce que Avraham s'est levé le matin? Tous les matins il s'est levé, mais le passouk ici qui nous parle d'Avraham qui s'est levé le matin, c'est quoi? C'est au moment de la Akeda, a priori. Le fait qu'il se soit levé le matin pour la Akeda, qu'est-ce que ça a à voir avec la takana d'une tfila? Alors c'est toute une construction. C'est pas fini. Lui, il se lève le matin. D'une part. Alors là, on nous dit qu'il s'est levé le matin. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout le moment où Avraham Avinu s'est levé pour aller à Akeda. C'est dans la parasha de cette semaine. C'est écrit que au moment de la destruction de Sdom, le pasouk dit Batabet Ishto, la femme de Lot a regardé en arrière, Batil Itziv Mela. Elle est devenue la fameuse statue de sel. Et le pasouk d'après dit Vayashkem Avraham Baboker. Avraham Avinu s'est levé le matin. El Hamakom Asher Amat Sham et Pene Hashem. Avraham Avinu s'est levé le matin et il est allé, donc il s'est levé vers l'endroit où il s'était tenu quand il parlait avec Hashem. Quand il a négocié sur Sdom, Avraham Avinu, après la destruction de Sdom, il s'est tenu, quand il s'est levé, on dit le matin, il s'est tenu et là où il avait rencontré Hachem, à ce moment-là, c'est marqué dans le pasouk, « Vayashkef al pnei Sdom, v'amora, v'al kol pnei eretz hakikar, v'yar, v'ine, ala kitor haaretz, ki kitor hakivshan. » Et il a vu qu'il y avait, en fait, de la fumée, tout était parti en fumée, quoi. De loin, il a vu. Donc, à ce moment-là, le pasouk dit... Vahi Beshachet Elohim et Aré Akikar, quand Hachem a détruit les villes l'entourage de Sdom, c'est tout un Kikar, c'est-à-dire toute une. Bon, je veux dire, c'est comme une espèce de ceinture de ville. Et Vahi Skor Elohim et Avraham, Alors, c'est marqué, Elohim s'est souvenu d'Abraham, à ce moment-là. Vaishalach et Lot, mitocha afecha. Et donc, il a sauvé Lot de cette, dans cette situation. Lot était Asdom, donc, le pasouk dit, c'est pas qu'Hachem s'est souvenu de Lot. Vaishkor Elohim et Abraham. Et du coup, il a sauvé Lot de la afecha, ba poch et aéarim, Hachem yachav ba'en Lot. Au moment où, effectivement, Hachem détruisait les villes en question, Lot faisait partie, était dans ces villes-là, parce qu'il était à Sdom, donc il était en train d'être détruit, et Hachem l'a sauvé par le mérite, grâce à Abraham. Donc c'est ça qui est dit ici. Alors comment est-ce que ça, ça fait une prière? Bon. Alors, Vayashkem Avraham Baboker, El Amakom Asher Amad Sham. Amad Sham, El Amakom Asher Amad Sham, En Amida El Atfila. Être Omed, c'est être en prière. Shenemar Vayamot Pinchas Vayfaled, c'est marqué que quand Pinchas est intervenu, c'est marqué Vayfaled, ça veut dire il a prié. En fait, l'intervention de Pinchas, avant d'aller embrocher Zimri et sa copine, Pinchas a prié. Alors, c'est intéressant parce que ici, il n'est pas marqué qu'Abraham a prié. Si c'est marqué qu'Abraham est allé à l'endroit où il l'avait, si on dit Amad, Sham, c'est que à un endroit où il avait prié, mais quand il avait prié, ce n'était pas le matin. On sait, quand il a prié avec. Quand il a prié, c'est le. Quand Hachem lui parlait, qu'il y a les visiteurs qui sont arrivés, etc., que Chovayom, c'est marqué justement, c'était en plein milieu de la journée, puisqu'il faisait tellement chaud, etc. Donc ce n'était pas le matin. Donc c'est très acrobatique là, le limoud ici pour dire que c'est la prière du matin. Bon, ceci mis à part, on a ici un point
c'est
très...
C'est un peu particulier quand même, parce qu'il s'est levé ou à la prière.
Non, c'est pas marqué. C'est Vayashkem Avraham, c'est écrit au pasouk, Vayashkem Avraham Baboker El Hamakom Asher Amad Sham. Il est allé regarder, de là-bas, peut-être là-bas, à ce moment-là, il est allé regarder ce qui allait devenir, ce qui se passait avec Sdom. Parce que probablement que quand il a discuté avec Hachem de Sdom, il était à un endroit où il voyait Sdom, peut-être c'est à ce moment-là, peut-être qu'il avait choisi cet endroit-là pour prier. Alors, premièrement, on apprend que cette discussion qu'il avait avec cette négociation qu'il avait avec Hachem s'appelle prière, Amad Sham, c'est la prière. Donc on voit, première chose, la prière est une négociation, ça dit quelque chose à ceux qui ont entendu le Vad de Amelechter, d'une part. Deuxièmement, on apprend ici que si on vous demande qu'est-ce que c'est la prière, qu'est-ce qu'il faut répondre? Vous répondez ce que vous voulez, mais qu'est-ce qu'il faut répondre? Non, négociation, ça maintenant.
En... El Amida et la Tfila.
Pardon?
El Amida et la Tfila.
Oui, mais du coup, ça veut dire quoi ici? C'est que la Tfila, c'est une Amida. La prière, c'est d'abord se tenir debout verticalement devant Hachem. Parler, faire énoncer, etc., la louange d'Hachem, puis ses besoins, etc., c'est en quelque sorte comme dans un deuxième temps. D'abord, il faut se tenir devant Hachem. Et dans la tfila de Neila, nous disons, Vatakireu lefanecha, Vatakireu, tu as reconnu l'homme, l'amod lefanecha. Donc tu lui as reconnu en lui permettant de se tenir debout devant toi. Bon, j'ai souvent déjà dit que, en fait, la posture normale devant Hachem, c'est un plat ventre. Bon, c'est s'écraser devant Hachem, c'est... Et le chidouche, c'est qu'on se tient debout, verticalement. Ça, c'est déjà un chidouche d'oser se tenir debout. Normalement, on ne devrait pas se tenir debout. C'est juste que, comme Hachem nous a prescrit de prier, et que prier, c'est... Namida, je lis ce qui m'a fait un midrash à l'envers. Ici, c'est marqué « En Amida et la Tfila ». Mais Tfila, c'est une Amida. Donc, si Amida ne peut pas s'appeler Tfila, ne peut pas faire référence à une Tfila, si la prière, ça n'est pas justement une Amida. Et d'ailleurs, on voit très bien que après, tout de suite après la Amida, qu'est-ce qui vient après dans la Tfila ? Il vient l'état Hanounim. Et dans l'état Hanounim, on était complètement étalé. Aujourd'hui, on ne le fait plus pour des raisons techniques, etc. Aujourd'hui, les Ashkenazim, ils tombent sur le bras, et les Sfaradim, ils baissent la tête, ils s'asseyent et ils baissent la tête. Mais normalement, Tachanonim, c'était à plat ventre, complètement. Pourquoi ? Parce que devant Hachem, c'est la situation normale, sauf qu'il nous a dit, tenez-vous, priez, donc on est obligé de se tenir debout, mais on montre tout bien clairement à Hachem, je me suis tenu debout, pas par impudence, mais parce que tu me l'avais ordonné, et dès que l'ordre est terminé, dès que j'ai fait ce que tu m'avais ordonné, je reprends la posture normale devant Hachem. Et donc le chidouch ici, c'est que la Amida, c'est quand la prière, c'est d'abord une Amida. C'est d'abord se tenir debout devant Hachem. C'est prendre conscience, voilà, je suis debout devant Hachem.
Mais d'après ce que vous dites, pourquoi on a besoin à ce moment-là de Tehillim ?
De ?
Du Tehillim qui vient après pour faire le dictionnaire entre Amida et Tfila, parce que on aurait pu se contenter du simplement de l'enseignement du Passouk d'Abraham.
Mais vous ne savez pas, d'où est-ce qu'on sait que c'est une Tfila ? Le Passouk dit simplement qu'Abraham, il s'est tenu là où il avait. Là où il est allé le matin, là où il s'était tenu debout devant Hachem. On ne sait pas encore que se tenir debout, ça s'appelle une Amida. Ça s'appelle une Amida, mais que ça s'appelle une Tfila. Pour ça, j'ai besoin de Tehillim, qui dit Vaïfalel. Vaïyamod, Finchas, Vaïfalel. On met en rapport Amida, Tfila. La négociation, ça veut dire la chose suivante, c'est que on avait fait un van, on avait vu qu'en fait, dans la tfila, on ne doit pas essayer de convaincre, on n'est pas dans la posture où on doit convaincre Hachem de nous donner ce qu'on demande. Comme si lui ne voulait pas le donner et nous on doit obtenir qu'il nous donne quelque chose que nous voulons et qu'il ne veut pas nous donner. On a montré dans ce ensemble de Vadim, de texte, qu'en fait, c'est acquis déjà. Donc on est seulement en train de négocier certaines modalités en quelque sorte, mais pas convaincre Hachem de bien vouloir nous donner les choses. C'est une négociation entre Hachem et l'homme, où l'homme sait que Hachem veut lui donner. Ça n'a pas de sens de dire qu'on veut arracher quelque chose, Hachem ne veut pas nous le donner, on va lui négocier. Bon, on négocie enfin comme deux partenaires qui négocient encore quelques points techniques, et bon, il faut faire comme ça, etc. Mais c'est acquis, le deal est fait déjà. Simplement, il n'y a pas de... Le marché est conclu. Simplement, il y a encore des points techniques à régler. Et c'est ça qu'on voit ici, que on voit bien, c'était une négociation, n'est-ce pas? Et ça s'appelle, ce qu'il a fait là, le mot Hamad pour Tfila, il n'est pas du moment où Avraham s'est levé, parce que même si je dis qu'il a répété ce qu'il avait fait hier, Shacher Hamad Sham, mais Az Kvar Hamad, le mot Hamad, il est dit sur ce qui s'est passé hier. Et hier, c'était la négociation pour savoir s'il n'y avait pas assez de justes à Tzadikim, à Sdom, pour sauver la ville. C'est vraiment une négociation. Oui, non, mais c'est une négociation. C'est pas que le problème ça n'a pas échoué. Abraham, ils sont d'accord. Tout le monde était d'accord que s'il y avait le quorum, en quelque sorte, ils auraient été sauvés. On est arrivé à la conclusion, Hachem a donné finalement l'information qu'ils ne sont pas là.
C'est Hachem qui fixe le quota.
Oui, c'est Hachem qui fixe le quota. Abraham ne discute pas qu'en dessous du Minyan, ça n'a pas de sens.
Le rapport qu'Hachem vis-à-vis des Nevi'im, la manière dont ils s'expriment à leur égard, est-ce que les Avot ont un statut de Navi? Et donc, dans leur communication avec Kadosh Baruch Hu, ça se fait comme avec les Navi qu'on voit à partir de Moshe, ou bien eux, il y a un rapport dans leur expression qu'Hachem, autre. Et ça me fait. Je pose
non, parce question. Que c'est autre, c'est parce qu'a priori, dans cette prière, etc., c'est pas la nevoie, c'est le fait qu'Hachem. Il y a eu une nevoie au départ de la négociation de Sdom. Parce qu'Hachem dit à Mechassé, Ani, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire? Donc je vais lui dire. Quand il lui dit, c'est la nevoie. D'accord? Il informe Abraham un avis de ce qu'il va faire par la suite. Ça, c'est ici, vous avez une nevoie. Mais ensuite, la négociation, c'est pas en tant que navi. C'est qu'il est l'ancêtre d'un grand peuple, etc., qu'il joue un rôle très important dans l'économie du monde. Enfin, quelque part, d'une certaine manière, Abraham va prendre la responsabilité du monde entier. Donc c'est assez normal qu'Hachem lui donne cette information. Et c'est aussi normal qu'Abraham se dise, mais pourquoi il me donne cette information? D'accord? Étant donné que c'est une information négative, on a une règle générale, n'est-ce pas ? Que quand un prophète ou quelqu'un d'autre a une information négative, c'est pas l'annonce que quelque chose va se passer obligatoirement et va être négatif. C'est toujours l'annonce de ce que, si vous ne faites pas certaines choses, voilà ce qui va arriver. Mais je vous dis ça pour que vous ne le fassiez pas. Je vous dis, ne faites pas ça, parce que si vous le faites, vous allez être sanctionné. Donc, une prophétie négative n'est pas faite pour se réaliser. Une prophétie négative, elle est faite pour ne pas se réaliser, c'est-à-dire que les gens fassent tshuva et que la prophétie n'ait pas besoin de se réaliser. Une prophétie positive, elle se réalise toujours. Une prophétie négative, non, parce que ce n'est pas sa fonction. C'est toujours la même idée, c'est la même idée que, par exemple, le fait qu'un tribunal dans le clan d'Israël, il n'est pas là pour condamner. La fonction du tribunal, dit l'Agmara, c'est d'innocenter. C'est ça qu'on demande à un tribunal. Et qu'à son corps défendant, il pourra éventuellement ne pas innocenter, il devra condamner. Mais sa fonction, c'est d'innocenter. Yitzhak tiken tfilat mincha. Yitzhak a instauré la prière de mincha. Shenemar veyetze Yitzhak lasuach basade. Ve'en sicha el atfila. D'où est-ce qu'on sait? Parce que de nouveau dans Tehilim, c'est marqué Eshpoch lefanav sichi. Je déverse devant lui ma sicha, ma conversation, ma sicha, ma. Eh bien, la soir bassadé, il est allé parler dans les champs. Il est allé presque converser pour qu'il y ait converser pour qu'il y ait un échange. Parce qu'il va parler avec Hachem. Donc, la dimension ici de prière chez Yitzhak, elle est aussi comme. Plus que la négociation, c'est même une conversation, c'est-à-dire un échange de paroles, un dialogue presque. Il c'est un dialogue avec... Ici, on pourrait poser votre question. Si tu dis que c'est un dialogue, est-ce que dans cette prière, Hachem parle à Yitzhak Avinu comme il parle à un Navi, ou est-ce que il lui parle comme il nous parle à nous quand nous prions? Est-ce qu'il y a ici, on voit pas ici que on mentionne la fonction prophétique. Yaakov tiken filat arvit, shenemar, justement, c'est notre pasuk ici, vayivga bamakom ven pegia elat fila, et le toucher, ça veut vouloir dire prier, comme c'est marqué cette fois-ci dans Yirmiya, c'est marqué va'altisa va'adam va'altivgabi, ne me touche pas. Ça, ici, ça veut dire donc ne parle pas pour eux, etc. Et ne me parle pas, ne me touche pas, sans, ne me prie pas. V'chein et Omer, v'im nevi'im hem, v'im yesh dvar Hashem itam, yivgu na b'Hashem tzvakot. S'ils sont des prophètes, et s'il y a une parole d'Hachem avec eux, alors s'il te plaît qu'ils prient Hachem Tzvakot. Nous on sait que c'était la nuit, cette fille a vite. Le pasouk dit qu'il va à Shemesh. C'est marqué, le soleil s'est couché.
Où c'est marqué?
Dans la suite des versets.
Il y a donc manifestement différentes façons de prier.
Oui. De là, on déduit que il y a plusieurs. D'abord, il y a disons, plusieurs termes qui indiquent la prière. On a vu ici Pegia, on a vu Sicha, et on a vu Amida. Pasuk dans Parshat Vayetse, il dit Vayivga bamakom vayalen sham ki va shemesh. Mais ça veut donc dire que naturellement, il y a trois temps dans une journée. Un a prié le matin, l'autre l'après-midi, et le troisième le soir.
C'est pas que c'est l'après-midi.
Pardon, Mincha. Tiken filat Mincha. Bon, c'est vrai que c'est pas marqué quand c'est. Mais Arvit, si vous voulez, du mot Harvey qu'on. C'est RF, bon, c'est pas RF, mais Harvey.
Non, mais pas pour Israël.
Oui, je sais. Non, mais je voulais dire pour, les, pour l'autre, on ne sait pas non plus que c'était.
Non, mais avec Hélène.
Pardon
de... Non, mais comme vous avez dit, HMH va.
Ça, c'est. Bah, HMH, ça, c'est Harvey.
Voilà, donc c'est.
C'est la suite.
Donc ça va. Je vais envoyer de Sébastien D. On ne sait pas quand il est sorti.
En tout cas, on voit que le Midrash considère que ce que Yitzhak a fait, ce n'est pas la même chose que ce qu'Abraham a fait. Donc, ce n'était pas le matin, c'est pas inné. Parce qu'a priori, Yitzhak, il a prié le matin. Si son père a fait une takana, alors lui, il a dû prier le matin aussi. Et lui, il a instauré, et peut-être qu'Abraham, il priait aussi l'après-midi, grâce. Ou bien, est-ce que tout ce qu'on veut dire ici, normalement, ce qu'on explique un petit peu différemment, normalement, on dit... Ils priaient avant, on priait le matin, on priait l'après-midi et on priait le soir. Mais ce n'était pas une takana, loït kinou. C'est pour ça que le problème d'en faire une institution, c'est un peu compliqué puisqu'on ne sait pas pour qui est cette institution. Disons, elle n'a pas un effet immédiat, elle n'a pas une utilité immédiate.
Est-ce que quand Hachem demande à Abraham de faire la Mila, est-ce que de là il faut, et ça veut dire que pour tous les descendants d'Abraham, c'est ça ou c'est ça pour sa génération à lui? Qui dit qu'il faut que les enfants et les petits-enfants d'Abraham fassent la Mila? Hachem, c'est écrit le forage comme ça? Ou c'est Abraham qui ça, justement?
Non, après c'est marqué que tout ça, ça entre dans. Ce qui va transmettre à sa maisonnée tout ce que je lui ai dit de faire, quoi, quelque part. C'est marqué, lui et sa descendance. Alors, maintenant, si vous voulez, la notion de takana, elle n'est pas du tout dite dans ce midrash. On nous dit que Abraham a fait ceci, Yitzhak a fait cela, Yaakov a fait cela, mais où est-ce qu'on voit Hitkin, la dimension d'instauration d'une institution? Enfin, ou d'institution de quelque chose, on ne la voit pas du tout dans ce texte. Alors, est-ce que quand eux ont fait quelque chose, c'est devenu automatiquement une institution? Est-ce que ça veut dire que quand les Avot faisaient quelque chose, eh bien, ça devenait un must, quoi, quelque part? Bon, ben, puisqu'ils font comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, et point barre. Et donc, c'est ça. Qu'est-ce que c'est une institution? Institution, pour avoir une institution, il faut avoir une autorité pour instituer quelque chose. Donc, vous voulez instituer, l'instituer pour qui? Pour vous-même, vous pouvez vous instituer tout ce que vous voulez. Et encore, c'est pas sûr. Mais pour les autres, il faut avoir une autorité. Quelle est l'autorité sur laquelle ils se baseraient? Ils n'ont pas d'autorité, personne ne les a jamais nommés de quoi que ce soit. C'est... Leurs élèves les ont choisis comme maîtres éventuellement.
Est-ce qu'on ne peut pas renverser que nous prions parce qu'on peut se référer à un...
Oui, c'est ça, probablement que c'est, ça a une valeur d'institution parce que les élèves ont pris pour modèle ce qu'ils faisaient et c'est ça la notion d'institution à un moment où il n'y a pas d'institution pour instituer, où il n'y a pas d'autorité extérieure, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pouvoir qui puisse instituer les choses.
On peut dire qu'il y a un modèle, on peut se renvoyer un modèle.
Oui, alors maintenant, c'est possible que ça, dès ce moment-là, quand on les a vus faire cela, les élèves qui les ont vus faire cela, eh bien, ils ont fait la même chose qu'eux.
Instituer, ça veut dire transmettre.
Instituer, c'est faire quelque chose qui va servir, que d'autres vont prendre pour modèle. À la limite, on pourrait très bien dire que ce n'est pas eux qui ont institué. Ce sont leurs élèves qui ont institué de faire comme eux. Ou est-ce qu'ils ont dit à leurs élèves, faites comme nous? D'autant plus que le takana, le hatkin, une takana, c'est... Ça a une dimension de réparation. Le taken, c'est arranger les choses, disons. Il faut arranger les choses. Quand on arrange les choses, c'est qu'elles ont été a priori dérangées ou qu'on a compris qu'il fallait arranger. Ils ont compris qu'il y avait un besoin de prier matin, midi et soir. C'est ça le... Ce serait ça. Les avots auraient compris. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Abraham, il n'a pas compris qu'il fallait prier matin, midi et soir. Pourquoi il n'a pas instauré tout de suite les trois? Parce que comprendre qu'il faut prier le matin, ça veut dire que tu comprends qu'il faut faire le programme de ta journée. Le programme de ta journée, ça veut dire que d'une certaine manière, tout ce que tu vas faire dans la journée est ancré dans le programme que tu as fait dans le matin. Donc quelque part, ça donne une unité à tout ce que tu fais dans ta journée. Mincha, a priori, tu vas regarder ce qui a été fait, tu vas porter un regard sur ce qui a été fait. On est au moment où le soleil va bientôt se coucher, le soleil penche maintenant du côté où il va peut-être aller se coucher. Et maintenant, tu vas porter un regard, une espèce de avant la fermeture, on va regarder, faire le bilan de la journée. Et à ce moment-là, si on institue cela, ça veut dire qu'effectivement, il faut regarder le programme pour faire les choses selon le programme, et puis ensuite, regarder, est-ce qu'il y a une convergence, si on peut parler comme ça? Est-ce que quand je regarde, est-ce que je vois les choses s'ancrer dans le matin, dans le programme du matin? Ou est-ce que, et cette prière-là, c'est aussi, c'est quoi là? C'est une façon d'engranger, c'est une façon de... Quand on fait un bilan de ce qu'on a fait dans la journée, qu'est-ce que ça veut dire? On regarde effectivement peut-être, est-ce que c'est un regard qui est porté sur finalement qu'est-ce qu'on a fait de ce programme, quelle partie du programme qu'on avait eu l'intention de faire on a vraiment faite? Quelle partie a été faite? Est-ce que c'est ça?
Qu'est-ce qu'Arvid?
Arvid, c'est autre chose, parce que Arvid, c'est la préparation pour la nuit.
Ça veut dire qu'Abraham n'avait pas besoin de faire le bilan de l'homme.
Non, c'est... Il n'a peut-être pas jugé nécessaire de le faire. Est-ce que c'est... Ce qu'il faut entendre, que c'est un fils à faire le bilan de finalement de ce que son père a fait, quoi, quelque part. Le père, il avait des projets, il a fait des choses, et puis le fils qui regarde ça d'un autre point de vue, du point de vue du futur du père, quoi. Il regarde ça, et quand celui-là regarde en arrière, il regarde qu'est-ce qui a été fait, effectivement, par rapport au projet qu'était celui du père. Alors, ça c'est, disons, quelque chose de ce genre-là. L'instituer, en fait, c'est penser que c'est nécessaire de le faire, et qu'il faut répéter ça, quoi. Et Arvid, alors c'est un peu compliqué. Arvid, parce que Arvid, c'est déjà, pour nous, c'est déjà le jour d'après. Donc, à la limite, on a... Si on regarde Arvid comme appartenant au jour... où Abraham a fait Shacharit et Yitzhak a fait Mincha, c'était l'Arvit d'avant. Arvit, c'est la préparation pour la nuit. Mais quelle nuit? Parce qu'on est déjà après le coucher de soleil. Alors on est déjà en train de préparer le jour d'après. Et on est déjà dans le jour d'après. Oui, mais justement. Hier et Vaïboker. Mais tel que c'est présenté ici, on a l'impression que c'est présenté comme si Vaïboker veille hier. N'est-ce pas? On présente, c'est Yaakov, c'est le troisième patriarche qui instaure Arvit.
Notre avancement, notre progression, et que ce qu'on a dit pour Mincha, ça passe dans Arvit.
Oui, mais normalement, Arvid, c'est le jour d'après.
Ok, mais vu que c'est au moment de Chapraï qu'on établit son programme, on peut dire qu'Arvid, on conclut, est-ce que ça a été fait ou pas, et Mitra, c'est juste une façon de prendre la vitesse de voir.
Peut-être, mais.
Est-ce que Jacob, c'est aussi quelqu'un qui commence quelque chose?
C'est un Av. S'il est un Av, c'est qu'il invente quelque chose. Être Av, ça veut dire être inventeur.
Mais j'ai plus qu'inventé, puisque c'est à partir de Jacob, c'est une règle.
Oui, mais il invente, il faut voir ce qu'il a inventé, Jacob.
J'ai essayé de comprendre pourquoi ce m'arrive. En fait, c'est la première prière de la journée.
C'est ça. Mais c'est étonnant.
C'est quelque chose qui commence, c'est quelque chose de nouveau qui commence.
Oui. Mais pourquoi le présenter de cette manière-là? C'est... Pourquoi Abraham, dans ce cas-là, pourquoi Abraham n'a pas fait, il n'a pas fait Arvit? Non, peut-être que tu le sais parce que c'est Abraham, il a fait Chafrit. Et...
Ça a fait penser, plutôt vous, vous faites penser, à quoi sert la nuit?
Quoi sert la nuit?
À quoi sert la nuit?
La nuit, ça sert à étudier. C'est écrit comme ça dans Rashi. C'est écrit qu'à partir de... Non, c'est écrit qu'à partir de Tammuz, les nuits recommencent à devenir plus longues. Ça veut dire on recommence à mettre l'accent sur l'étude plutôt que sur les maasim. En été, on a des longs jours, donc beaucoup de maasé et moins d'études. Et en hiver, on a beaucoup d'études et moins de maasé. Alors Rachid dit, dès que on passe en Tammuz, que les jours commencent à raccourcir et les nuits à s'allonger, ça veut dire il faut se mettre dans la tête que on entre dans des phases de réflexion, d'études, etc., plus que des phases de...
Mais Yaakov, il est là, il s'est couché, il n'a pas dit que...
Mais justement, il ne s'est pas couché. Le problème, c'est qu'il ne s'est pas couché pendant 14 ans. Il s'est couché seulement là, mais pendant 14 ans, il ne s'est pas couché, justement. Non, mais ce n'est pas le problème. On va voir, peut-être dans la suite, ça viendra.
Là, le problème, c'est qu'on ne voit pas le lien. Habituellement, on dit c'est par rapport au Corbanot. Ça
reviendra, oui. Oui.
Là, il ne sait pas.
Bien, alors ici. Le Midrash continue et il dit Amar Shmuel, Amar Rab Shmuel Bar Nachman, Keneged Gimel Pe'amim Shayom Mishtane. Ces trois prières, elles correspondent à trois moments, à trois fois où le jour change. C'est-à-dire, on part de la nuit pour aller vers le jour, du jour pour aller. Comment ça fait trois fois là?
Jamais
je vais
pour un
tour.
Et là, du coup, il commence le soir.
Oui. Alors, commence, regardons ce qu'il dit. Barvit Saïch Adam, l'Omar, le soir, l'homme doit dire Yehi Ratzon Milfanecha, Hashem Elokai, She Totsieni Me'afela Leora. Il faut prier pour sortir des ténèbres vers la lumière. Donc la nuit où commencent les ténèbres, il faut prier de voir la lumière. Veshachrit tzarech lomar, modé ani lefanecha Hashem Elokai, sheotzetani me'afela leora. C'est-à-dire, le matin, c'est une reconnaissance de ce qui s'est passé. Tu m'as fait sortir effectivement des ténèbres vers la lumière. Et bien, il faut que l'homme le dise, et il faut que l'homme le dise, et il faut que l'homme le dise, et il faut que Zikitani lirot chama bezrichata, kach tezakeni lirota bishkiata. De même, on demande à Hachem, c'est une demande, de même que tu m'as donné le mérite de voir le soleil se lever, luire, de même, donne-moi le mérite de voir le soleil se coucher. Il y a donc deux demandes et une reconnaissance. Demande, reconnaissance, demande. Si je mets ça en rapport avec ce qu'on a vu plus haut là, Abraham, ce serait la reconnaissance. Est-ce qu'on a commencé par Abraham? Abraham, ce serait la reconnaissance. Yitzhak, ce serait une demande, la demande de voir le soleil se coucher. Et Yaakov, la demande de voir le soleil se lever. Intéressant parce que ce que j'ai dit, c'est pas exactement les termes, parce que Yitzhak il demande effectivement à voir le soleil se coucher, mais Yaakov il ne demande pas à voir le soleil se lever, il demande à sortir de l'obscurité vers la lumière. Oui, bon, vous direz que c'est la même chose, mais c'est pas dit du tout dans les termes de je veux voir le soleil se coucher. Parce que voir le soleil se coucher, ce n'est pas vraiment entrer dans la nuit. On voit le soleil se coucher, ce n'est pas tout de suite la nuit. Il voit le processus de passage. Yaakov, il demande à sortir de... Je suis dans une situation, je suis dans Arvit, et je voudrais en sortir. Et Avraham Avinu, il dit... Voilà, je te remercie de m'avoir fait sortir effectivement de cet état de cette obscurité vers la lumière. Alors maintenant le Midrash dit.
On pourrait dire pas maintenant qu'il y a peut-être un enfant.
Pardon, il y a
Est-ce que. Me permettre la demande de Yitzhak, qu'est-ce qu'elle a, enfin la demande de Yitzhak, c'est quoi, c'est du luxe de voir le soleil se coucher.
Non, il demande, de même que je l'ai vu se lever, je voudrais le voir se coucher. Elle a l'impression que ce qu'Yitzhak demande, c'est de voir la totalité. Lui il demande, je veux voir les deux phénomènes. Mais il dit, puisque j'ai vu, parce que tu m'as donné le mérite de voir le début du processus, je voudrais voir la fin aussi, je voudrais voir la totalité de la course du soleil en fait. Tandis que les autres, ils parlent de passer de passer de l'obscurité à la lumière, sous forme d'une demande ou de reconnaissance du fait que ça a eu lieu, mais c'est pas du tout pour voir une totalité. Il y a Kitzrock qui voit une totalité, qui dit, moi je voudrais voir. D'abord, lui, il voit toute la journée, n'est-ce pas? Le voir se coucher, c'est finalement, je le vois se coucher après l'avoir vu se lever. J'ai vu toute la course du soleil. Finalement, on pourrait dire, qu'est-ce que Yitzhak, c'est le seul qui voit toute la vie, quoi. Les autres, l'un voit la naissance et l'autre voit la mort. Enfin, même pas. Il entre dans la mort et il demande à sortir de la mort. Peut-être, de ce point de vue-là, si on le met à la fin, alors ce serait Triat Hametim. C'est-à-dire, on est dans la... On est mort. Maintenant, je demande à revivre pour le jour d'après, quoi, quelque part. Et donc, on pourrait dire, l'un demande Triat Hametim, l'autre, Avraham Avinu, il met l'accent sur la naissance. C'est assez normal, parce qu'Avraham Avinu, c'est vraiment la naissance du clan Israël, c'est tout ce processus. Et Yitzhak Avinu, c'est celui qui voit toute l'histoire. Quoi. Il a vu la naissance et la mort, voilà. Toute l'histoire du monde. Je veux voir comme ça.
Et tout cela est vu dans l'optique que le soleil tourne. Du moins, ça a l'air d'être.
Quelle importance, mais ça.
Alors qu'en réalité, nous savons bien que.
Mais ça sert à
rien. Ça a l'air même.
Non, mais vous ne le vivez pas, ça. Nous, personne ne vit. Vous ne vous sentez pas tourner autour du soleil, que je sache. Toutes les expressions, mais ça n'a pas d'importance. Relativement pour nous, ça, c'est comme ça, c'est ce qu'on voit. Alors, bien sûr que pour des raisons différentes, pour des raisons techniques, si vous voulez, on sait maintenant, enfin depuis longtemps, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Mais l'expérience que vous vivez, d'ailleurs les expressions sont lever de Soleil, coucher de Soleil, le Soleil ne s'est jamais levé ni couché.
C'est l'expérience. Le ressenti est plus important que
le mécanisme. C'est pas qu'il est. Si on veut. Si vous voulez. Pour vivre sur la Terre, est-ce que ça a une importance de dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil?
Enfin, ce que vous l'avez demandé, c'est juste que la Terre tourne sur elle-même.
Oui, en plus, c'est pas. Oui, non, en plus, c'est ça. Que la Terre tourne autour sur elle-même, en fait, et c'est pas le Soleil qui.
Oui.
Vous avez raison. C'est pas le. Mais la course du Soleil. On la vit comme si c'était le soleil qui se déplaçait. Ça n'a pas d'importance. On sait que ce n'est pas ça, mais qu'est-ce que vous voulez en faire de...
Ça me ramène à une objection que j'ai fait plus d'une fois. Est-ce que le fait que les avots avaient une image, une vision de la grandeur de la chaîne, mais est-ce que le fait qu'on en a une vision infiniment plus grande scientifiquement aujourd'hui, que simplement c'est celle du système solaire. Est-ce qu'il n'y a pas dedans cette vision cosmique infiniment plus vaste? Ça grandit encore la chaîne, d'une certaine façon.
Oui, mais nous, on ne regarde pas tellement la cosmologie physique.
Elle existe.
Oui, elle existe, mais nous, ce dont on parle quand on parle des... Du ciel, etc., c'est des choses spirituelles.
Ce que je disais, est-ce que ça ne nous oblige pas aujourd'hui d'avoir une vision encore plus vaste de ce que ça achète?
Oui, très bien. Inématov Manaï, bien sûr. Très bien.
Mais dans la question, comme situation de stress, ils ont un drame, c'est après la destruction de Sodome et Gomorre. Et bon, c'est fini. Puis,
c'est en fumée.
Bon, Jacob, c'est moins 4 aussi. Et Jacob, c'est avant de partir en exil, c'est avant une nuit qui commence pour lui.
Ouais, il entre dans la nuit, lui, et il peut prier que j'en sorte, quoi, de cette nuit. Initialisation.
Invocation et construction. Comme un informatique. bloquer, c'est le point qui voit tout.
Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, Rav Shmuel Ben Nachman, il dit ce qu'il faudrait dire à chaque moment. Or, dans la Amida, on fait trois fois la même Amida. Hein. Arvit, Shachrit, Mincha, c'est tout le temps la même. On n'a pas changé du tout le... Pardon ? Oui, c'est le chol, parce que ces références-là, elles vont sur le chol, essentiellement. Shabbat, c'est autre chose. On parle du Shabbat de Réchit, du Shabbat de Matan Torah et du Shabbat de Latid Lavo. Alors, d'avoir à faire, Vaivgaba Makom. Encore une troisième chose là, sur ce Vaivga Bamakom. Rabbanan Amre Keneget Tmidim Tiknu. Ça, c'est l'autre chita. C'est que ça a été instauré Keneget Tmidim. C'est-à-dire, a priori, en face, en lieu et place, on pourrait dire, des Tmidim. Korban Tamid, de Shacharit et de Mincha. Alors ici, le Etz Yosef, il dit « Keneget midim tiknum ki atfila shei shfichas ha-nefesh ve-horadat ha-shefa idugmat ha-korbanot. » Bon, la tfila, elle a le même effet que les korbanot, la même structure que les korbanot. « Tfilat ha-shachar keneget tamid shel shachar, tfilat mincha keneget tamid shel ben arbaim, et tfilat ha-erev en la keva, donc elle n'est pas fixe, il n'a pas le même statut juridique, mais en vide que les deux autres. Et Amar Aftan Chouma, Filo Tfilata Erev Yeshlakva. Elle a aussi un moment fixe parce qu'elle correspond Keneged Evarim Ubdarim, Shayou Mitaklim, Be'ur, Ba'ur Al-Hamisber. Ça correspond aux membres du Corban, enfin les parties du Corban et les morceaux qui se consumaient sur le feu du Misbeach, dans le feu du Misbeach. Donc il y a une opinion d'abord qui dit ça n'a aucun keva, donc ça ne correspond à rien. Et l'autre dit si, ça correspond quand même à la consommation de la hola de Ben Arbaim de l'après-midi. D'abord, on ne les justifie pas. On dit que on a instauré ça. Alors pourquoi vous dites que c'est anachronique?
Anachronique dans le sens que. Je présuppose que les Shachrit Mitzrayim existaient avant Tamid. Voilà. Et donc de dire, en fait, Shachrit Mitzrayim, c'est parce qu'il y avait Tamid. Ça serait qu'une fois qu'il y ait Tamid. Ça, c'est ma référence pour
aller faire
Shachrit
Mitzrayim.
C'est pour ça que
j'ai utilisé le terme anachronique. Oui, mais c'est. Vous avez peut-être raison, mais le fait qu'on présuppose que Shachrit Mincha et Arvit existaient avant, ça ne veut pas dire qu'ils étaient instaurés avant. Justement, peut-être la différence, c'est que Quand est-ce qu'on a eu besoin d'instaurer la chose, d'institutionnaliser la chose? C'est quand l'institution Korbanot n'a plus existé. Alors ce qu'on faisait peut-être de façon facultative, que certains faisaient, d'autres ne faisaient pas, on a instauré, on a fixé les choses. Il faut le faire parce qu'il n'y a plus maintenant le fonctionnement du Beth Amikdash qui faisait avec la grande différence que quand c'était fait au Beth Amikdash, c'était fait pour à cet endroit-là pour tout le clan d'Israël, et que quand on instaure la tfila, c'est que chacun doit prier pour soi, et donc chacun fait, c'est comme si chacun faisait le korban tamid, les korbanot tamid ou les korbanot qui marquent la journée pour son compte, comme si on retournait à un certain individualisme après avoir passé par une démarche collective, c'est-à-dire à savoir la délégation au Kohanim de faire le travail. Donc vous pouvez très bien dire que finalement, on pourrait même dire que c'est même pas contradictoire, on peut très bien imaginer qu'avant le Beth Amikdash, c'était une institution parce qu'il n'y avait pas de Beth Amikdash. Quand le Beth Amikdash est venu, on n'avait plus besoin de l'institution de la prière puisque c'était réglé par les Korbanot. Et quand les Korbanot du Beth Amikdash ont disparu, on a dû réinstitutionnaliser la chose. Bon, je n'en sais rien, ça correspond peut-être pas du tout à une réalité politique ou enfin, d'organisation du clan d'Israël, mais on pourrait très bien le dire comme ça. C'est-à-dire, on peut très bien prendre ce midrash comme n'étant pas du tout des opinions divergentes, mais des opinions qui viennent tenir compte des circonstances, effectivement.
Il semble que ce ne soit pas passé comme cela, puisque en définitive, si je vous entends bien, ici, donc la prière, les trois prières, auraient débuté donc,
avec les Avot. Plus que jusqu'à la sortie d'Égypte.
Oui.
Jusqu'au Mishkan.
Non.
Jusqu'au Mishkan.
Ils nous disaient qu'ils avaient tout oublié. Donc, apparemment, ça n'a pas été suivi, cette.
Mais c'est en Égypte. Jusqu'à la descente en Égypte, c'était par les Shvatim, ça a peut-être été, oui, suivi. Abraham, Yitzhak, Yaakov et toute la période des Shvatim.
Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus où on sait.
Puisque eux, ils l'ont institué. Moi, je prends le Midrash tel qu'il le dit ici. Vous vous dites autrement, mais on n'en sait rien.
Mais je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose là ?
Ici ? C'est écrit là ?
Oui, mais on ne sait pas si ça a été sûr.
Mais franchement dit, suivi ou pas suivi, ici, c'était de toute façon pas très très long, puisque c'est jamais que les enfants d'Yaakov qui sont en cause. Et puis ensuite, peut-être le début du séjour en Égypte, où on a encore fait les choses, disons. Et puis après, ils ont tout oublié. Alors, ils ont tout oublié comme on a tout oublié en Russie, et puis il y avait 70 ans après, il y a des gens qui sont venus, et puis on a recommencé.
Et est-ce qu'on savait ce que c'était ces prières ? Parce que certainement, c'est bien entendu pas celles que nous avons aujourd'hui.
Non, ils ont prié. C'est sûr que c'était pas... Personne n'a jamais dit que ça avait cette forme-là, puisque notre prière à nous, c'est un Cheikh Nesak Dola qu'ils ont instauré. C'est, si vous voulez, les gens à peu près à l'époque du Pourim.
On voit bien qu'ici, il y a...
Mais ça, c'est une formule. Là, on peut très bien avoir une obligation de prier, et puis on te dit, tu pries tout seul. Puis après, tu peux très bien dire, mais moi, je ne sais pas prier tout seul, donnez-moi... De même qu'il y a des gens qui ont besoin d'un sidour, et d'autres qui savent par cœur, mais il y avait peut-être des gens qui savaient composer la prière, puis il y avait des gens qui ne savaient pas. Alors, ils disaient, dites-moi ce qu'il faut dire. Et alors, les Anshei Knesset Gdola ont décidé que, on va vous dire ce qu'il faut dire, et tout le monde va dire la même chose. Ce qui aurait effectivement l'avantage... De fabriquer de l'unité, une unité qu'on perd à partir du moment où chacun fait sa prière de son côté. On avait l'unité à partir du moment où tout était fait au Beth Amikdash. Maintenant, un Cheikh Nesset Gdola, c'est entre le premier, si c'est Mordechai, ça veut dire, c'est la fin, on est entre les deux Beth Amikdash. Ça veut dire, on est déjà à la destruction du premier, après la destruction du premier Beth Amikdash. Donc, c'est déjà cassé, quoi. L'histoire des Korbanot, ça s'est cassé. On va le remettre en vigueur après, mais c'est cassé. Donc à ce moment-là, on a dû prendre des mesures comme les gens ne savaient pas vraiment ce qu'il fallait faire et tout, on dit voilà, on paye de cette manière-là. Donc à la fois, ça a aidé les gens qui ne savaient pas, et puis en plus, ça a eu l'avantage de fabriquer de l'unité de nouveau. Ce clan Israël qui était dispersé, qui était en galoute, et il n'y avait plus d'organisme central puisqu'il n'y avait plus de Beth Amikdash, on a fabriqué de l'unité en disant, ben voilà, on va tous prier de la même manière. Enfin, disons, en tout cas, on aura une base, après tu feras ce que tu voudras, mais voilà, une espèce une formule de base.
Ça veut dire que, du point de vue institutionnel, pendant le Second Temple, il y avait à la fois les corbanotes...
Alors ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas si à ce moment-là, on a arrêté de prier puisqu'il y avait les corbanotes, ou est-ce qu'on a fait les deux en parallèle. Je ne sais pas. Voilà, on va s'arrêter là.
Mais l'exemple de la voix, c'était une prière très individuelle, personnalisée, c'était une lettre qui s'adressait à son père.
Mais peut-être que Abraham a dévoilé à Yitzhak comment lui priait, et puis Yitzhak il a peut-être dit, bon c'est bien ce que tu fais, mais moi je peux faire autrement. Moi, j'ai une autre sensibilité. Bon, je prends les choses différemment, ou pas. Ou bien je fais ce que tu dis, mais j'ajoute. Comme on voit que Yitzhak Avinu, il a creusé les puits que son père a creusés, et que les Philistins ont rebouché, ben, il recreuse les mêmes puits. Mais il les creuse d'une autre, à sa manière. Par exemple, chez Abraham, c'était gratuit, et chez Yitzhak, il fallait payer pour boire. C'est ça qu'il a fait. Il a dit, oui, bon, je creuse les puits, vous voulez boire, il faut payer. Mais chez Abraham, c'était gratuit.
Voilà. Comme dans la tuila, elle est quotidienne. Au moment, les corbanotes, ils ne sont pas quotidiens.
Si.
Oui, c'est quotidien. Ils sont faits quotidiennement, mais l'individu ne fait pas des corbanes quotidiennement.
Ah non, mais on ne parle pas des corbanotes de l'individu, on parle de corban tamid. C'est le tamid seulement.
Oui,
on parle.
Mais le corban tamid, c'est pour tout le peuple.
Oui.
D'accord.
C'est ça qu'on voulait.
D'accord. C'est une procédure de mutualisation, d'accord. Mais maintenant, au niveau individuel, le jour où il y avait le corban, au moment où le Kohen faisait le corban tamid, le Israël de base il est dans son champ.
Tout à fait. Oui, mais c'est ce que je dis. Voilà. Mais il y a une délégation de.
Il est quand même beaucoup. Ben, c'est un mandat. Voilà.
Ouais. C'est comme ça qu'on
sait. On n'est pas.
Mais Yom Kippour, par exemple, il n'y avait que le Kohen Gadol qui faisait le boulot.
Tout à fait. Vous avez dit ça, mais c'est vrai que peut-être parce qu'on ne l'a pas vu, malheureusement, on n'a pas encore vu comment ça s'est passé. Mais de notre point de vue aujourd'hui, on pourrait dire cette institution nous éloigne de la réalité, nous éloigne de la chaîne.
Mais non, vous savez, il y a un peu la même démarche dans le monde chassidique. On considère que le rébé, c'est lui, il fait les choses, et puis les chassidim, ils suivent, quoi. Aujourd'hui, bon, il y a plus de gens qui connaissent, qui étudient et tout. Mais au départ, c'était ça. Le rébé, c'était, il n'y avait que lui qui savait faire, et lui faisait, et les chassidim, il regardait faire. C'est la même idée. C'est-à-dire que quand une population peut très bien ressentir qu'on ben, n'est pas capable de le faire, alors on va déléguer ceux qui sont capables de le faire. C'est une mentalité qui existe. Les gens disent assez facilement aujourd'hui, et même, ouais, ben, les rabbins, ils vont qu'à le faire, quoi. Nous, on n'a pas besoin de le faire.
Oui, mais est-ce que ce n'était pas un petit peu comme ça lorsque le Kohanim faisait le corban tamid?
C'était tout à fait comme ça.
C'était quasiment mécanique en quelque sorte.
Pourquoi mécanique? Non, pas mécanique, ça n'a rien à voir avec la mécanique, mais ça veut
dire.
Mais il y avait délégation, il y avait un qui faisait pour tout le monde.
Un mignon, oui. Oui, 6 personnes.